Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant.
Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois,
on vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme, aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
De 12h30 à 14h
sur Kaleidoscope
97 FM
et en podcast
sur letamis.info.
Vous êtes sur Radio Kaleidoscope 97 FM et c'est l'émission Micro-ondes qui commence aujourd'hui. On est le 6 mai, c'est ça? On a plein de choses à vous raconter. On va passer par les luttes qui sont en cours. On va passer par des débats, des morceaux de musique.
et surtout, ouais. On a plein d'invités.
Et surtout, on a plein d'invités. Et voilà, je vous laisse présenter les invités.
En invité, du coup, pour parler du mouvement social aujourd'hui, on a Seb de Sud Rail Solidaire, Alice, militante féministe syndicale et politique, Salomé, solidaire étudiant, et Charlotte, professeure syndicaliste à Sud Éducation. Et il y a un militant qui va nous rejoindre, qui est dans les transports en commun en ce moment, et qui est Idriss, militant CNT Campus. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour. Alors pour l'émission, on vous proposait de lancer d'abord un petit reportage qui a été monté à une AG justement de cheminots et puis de rebondir direct par la suite sur le mouvement social. On écoute ?
Vous voulez, mais pas un peu de problème.
micro-ondes. Sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Nous sommes en mai, faites ce qui vous plaît.
Reportage du coup qui nous met direct dans le vif du sujet. Hein, c'était, y en a eu d'autres des âgés depuis. Et où en est ce mouvement social et en quoi cette lutte cheminot elle est emblématique?
Eh bien, salut à toutes et à tous. Donc, comme tout le monde le sait, hein, depuis plus d'un mois maintenant, le gouvernement, les médias et les experts autoproclamés se bousculent pour expliquer que l'ouverture à la concurrence et la casse du statut de cheminot, ça serait la solution pour que les trains arrivent à l'heure, pour que la SNCF aille mieux, etc. Mais bon, on a quand même... Il y a quand même des choses très importantes à repréciser. C'est que la réforme, elle est néfaste pour tous les usagers. Qu'il y a quand même donc des cheminots qui luttent de partout en France, en intersyndicale, ensemble, avec d'autres secteurs d'activité et de métiers qui sont en lutte. C'est quand même important de ressavoir que on focalise sur la dette, mais d'accord, il y a 39 milliards de dettes actuellement, mais d'un autre côté, si le gouvernement, qui est très mauvais payeur, il payait ses dettes et justement, il participait beaucoup plus, ce qu'il ne fait pas, à la dette, évidemment, voilà. Enfin, on focalise toujours sur la dette, mais c'est pas les cheminots, c'est pas la faute des cheminots, c'est pas la faute des usagers, ni des citoyens en France qu'il y a cette dette. C'est encore une fois des engagements de l'État. Et d'un autre côté, les 1,8 milliard de bénéfices nets de la SNCF en 2017, c'est quand même un truc qui est vraiment important à savoir. On nous bassine, encore une fois, tous les experts autoproclamés sur TF1, BFM, etc., nous bassinent de conneries, alors qu'on se bat au quotidien, nous, pour justement, avec la population, avec les collectifs de lutte, avec des collectifs de ligne, dont on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, c'est par exemple le comité de défense de la plus belle ligne des Alpes, la ligne Grenoble-Veine-Gap, qui se bat corps et âme pour justement conserver cette ligne, avec les cheminots, avec les collectifs, avec les usagers. C'est vraiment important. On a une chance, entre guillemets, dans cette grosse lutte. C'est justement que les usagers sont beaucoup avec nous. Il y a beaucoup de collectifs qui sont montés pour défendre les cheminots en lutte, pour défendre la SNCF, entre guillemets, leur SNCF. Parce que la SNCF, elle appartient à tout le monde. C'est vraiment important, comme le rapport qu'il y a. Parfois, je t'aime moi non plus, c'est sûr, mais il y a quand même un rapport, évidemment, affectif entre la population et les cheminots. Et aussi, on pense aux postiers, par exemple, la population et les postiers, et tant d'autres métiers où, justement, la population est vers nous, est avec nous. Ça, on essaye le plus possible de maintenir, justement, des liens et du tissu, vraiment, qu'on a fait depuis le début.
Vous voulez réagir, peut-être
Oui, bah, cette question de la dette, elle est très intéressante.
Alors, c'est Salomé.
C'est Salomé de Solidaire étudiante. Cette question de la dette, elle est très intéressante parce que à la fac, c'est exactement les arguments qu'on nous donne de dire que y a de la dette, que l'État va mal, que il y a trop d'étudiants et d'étudiantes, que du coup, ça fait des déficits, que il y a les plans de retour à l'équilibre. Sauf que je vais prendre l'exemple de Grenoble, où on a ce qu'on appelle l'IDEX. Donc c'est des budgets en plus parce qu'on est une université d'excellence. Et au début du mouvement, le président, Monsieur Lévy, s'est vanté d'avoir débloqué 1 million d'euros pour préparer le plan étudiant, donc les lois de sélection entre universités, pour ce plan étudiant, qu'il a débloqué 1 million d'euros. Et la question qu'on se pose, c'est en fait l'IDEX, on ne l'est pas que depuis cette année. Donc pourquoi est-ce que ce million d'euros n'a pas été débloqué avant? Parce qu'à la fac, il y a la gel des postes, donc c'est-à-dire que les profs qui vont partir à la retraite ne vont pas être remplacés. Il y a de plus en plus de doctorants, doctorantes et de précaires qui viennent donner les cours à la place des profs. Et ça fait une précarisation très forte pour les personnels et pour les étudiants, c'est pas efficace parce que du coup, il y a une forme d'individualisation où on se retrouve face à des profs qui savent parfois même pas comment nous enseigner. Et à la fin, on doit quand même réussir à gérer le truc. Et quand on va voir les profs en leur disant comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'enseignement de la fac est comme ça? On nous avait pas vendu ça quand on était au lycée. Ils nous disent que c'est la crise et qu'il faut faire un effort.
c'est un... Oui.
Ouais, mais je crois que sur cette question, en fait, des budgets de manière générale, c'est vraiment toute la question des services publics et des biens communs qui se posent. Et je vais prendre juste un exemple, c'est celui de la santé, parce qu'il est vraiment d'actualité avec les annonces du gouvernement. Mais en gros, on a un service public où on voit, voilà, que c'est la question de la santé de l'ensemble de la population qui se pose, et on voit qu'il y a déjà eu, ben voilà, un mort aux urgences, faute de moyens, vraiment faute de moyens, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est encore 960 millions d'euros d'économies qui sont annoncées par le gouvernement. Et donc, bien sûr, ça va peser sur les soins pour l'ensemble de la population. Donc, ça veut dire, en gros, une santé à deux vitesses. Ah, ben, si t'as du fric, t'iras te faire soigner dans les cliniques privées rapidement. Et puis, ben, si t'en as pas, ben, t'attendras 3 mois pour avoir un rendez-vous à l'hôpital. Et puis, t'attendras dans les couloirs des urgences pendant 4 heures que quelqu'un puisse te prendre en charge. Et puis c'est surtout aussi la question des conditions de travail, en fait. On sait aujourd'hui que, ben voilà, dans la santé en particulier, c'est essentiellement des femmes qui y travaillent. On pense évidemment aux infirmières, aux aides-soignantes, que leurs conditions de travail, elles sont déjà dramatiques. Elles peuvent pas prendre leur congé, elles font des heures hallucinantes avec tous les risques que ça comporte. Et ben ces économies, elles vont encore se faire sur le dos de ces salariés. Il commence à y avoir des suicides en nombre. Et ben voilà, c'est ça en fait les politiques qui sont menées aujourd'hui, et c'est ça qui va être déployé dans la santé, dans l'éducation, dans la santé, partout. Et du coup, je crois que nous, il y a vraiment cette question d'une prise de conscience globale, des conséquences que ça va avoir pour tout le monde. Bon, et en particulier sur les femmes, puisque c'est un peu voilà mon créneau de militantisme en tant que militante féministe. Mais voilà, je crois que c'est très important de le dire et d'en avoir conscience.
Et du coup là on passe dans vos prises de parole d'un champ à un autre, en fait. Le mouvement social aujourd'hui, on n'arrête pas d'entendre à la radio que il y a même un nouveau mot qui a été inventé, coagulation. C'est un nouveau truc. Voilà, on parle de coagulation pour éviter de parler de convergence des luttes, pour éviter. Là, vous faites bien les ponts entre chaque secteur, et comment ça se passe sur le terrain et comment ça se passe dans le mouvement social? Est-ce que ces ponts-là, ils sont faits? Comment cette lutte, elle se met en place collectivement?
C'est important, justement, ça, tu as raison, hein, c'est cette convergence des luttes qu'on veut tous et qui peine un peu quand même à venir, hein, puisqu'on l'a dit plein de fois, le gros mouvement de lutte en ce moment, au quotidien, c'est les cheminots avec les étudiants, et il y a des balbutiements, justement, on l'a vu au niveau des hôpitaux, un petit peu des EHPAD, on l'a vu un peu auprès avec les éboueurs, avec les carrefours, avec un petit peu de McDo dans le nord de la France. C'est vrai que ça, enfin, on aimerait beaucoup que, justement, y a cette convergence qui fonctionne, qui démarre, qui soit vraiment forte, mais il faut y travailler. C'est pas comme ça, bien sûr, en claquant du doigt, qu'on arrive à faire venir tout le monde. Et on a du mal, évidemment, avec les fédérations, bien sûr, hein, on en a complètement conscience, qu'on a du mal avec les fédérations à Paris, qui décident des dates, mais qui sont pas très coordonnées. Ça, c'est une réalité de terrain. C'est pour ça qu'on travaille vraiment au quotidien pour justement le plus possible faire venir, encore une fois, tous les salariés chômeurs précaires, étudiants qui sont en lutte, pour que vraiment on y arrive au fin du fin à faire plier ce gouvernement infernal. En rappelant que au niveau des cheminots eux-mêmes, c'est ce projet de loi infernal, comme on dit projet de loi scélérat, qui a été voté par une immense majorité de députés En Marche, ainsi que la droite, il y a 15 jours. Mais c'est pas pour ça qu'on va baisser les bras, c'est pas pour ça que les cheminots vont dire « Ah bah oui, les députés, ils ont voté ce projet de loi infernal qui explose la SNCF en 4 SNCF différentes », parce que c'est ça qui va se passer. Hein. Dès janvier 2020, la SNCF sera transformée en 4 SNCF société anonyme sous groupe public ferroviaire. Donc c'est quand même inconcevable et c'est un truc de fou. Donc c'est, les cheminots, c'est impossible qu'on se laisse faire et on veut pas baisser les bras. Il y a encore une fois cette SR syndicale à 5 syndicats qui est toujours présente, hein. On fait des choses ensemble. Sur le terrain, on fait le mieux possible pour garder cette unité, parce que même si c'est difficile au quotidien, ben on a besoin de ça, on a besoin d'être ensemble. Et ça, c'est vraiment important, c'est appeler aux cheminots qu'on soit solide ensemble, et pas qu'aux cheminots ça plaît. Donc on continue encore, justement, et évidemment, ben pour, au niveau de la grève, évidemment, la stratégie de la communication partout dit « Oh là là, ça s'effrite, oh là là, les cheminots commencent à s'essouffler, oh là là, il y a moins de monde en grève. » Et ça, c'est la stratégie de la communication. Le président de SNCF, Pépi, qui dépense 450 000 euros par an en budget com. Évidemment, il transmet des salades aux grands médias qui relayent à foison. Bien évidemment, pour le plus possible faire baisser la motivation des grévistes. Mais évidemment, nous, on ne veut pas baisser les bras. On ne veut pas, on veut pas cesser faire. Et on continue. Je rappelle quand même qu'on était presque 300 cheminots. Il n'y a que des cheminots à Chambéry avant-hier. On est allé devant notre direction régionale, bruyamment et visiblement, pour exprimer notre mécontentement et qu'on ne veut pas baisser les bras. Et demain, lundi 7 mai, on monte tous à Paris. Donc il y a pas mal de monde, hein. Il y a plusieurs milliers de cheminots inscrits en intersyndicale qui montent avec le but d'aller devant Matignon exprimer encore une fois notre colère bruyamment et visiblement.
Justement, il y a Idriss, en fait, du militant de CNT Campus. Alors peut-être que je voulais lancer, puisque là, il y a un petit montage que je voulais vous faire écouter qui a été pris pendant la manif du 1er mai et qui est, c'est très court. C'est plutôt des personnes dans le système de l'éducation, parce que les réformes, elles se font dans tous les secteurs, vous l'avez dit, notamment dans l'éducation. Et il y a la lutte à la fac, la lutte au lycée, comment ça se passe. Voilà, je voulais vous faire écouter ça avant qu'on reprenne l'antenne et puis que Idriss, du coup, tu puisses te présenter et parler aussi de ce qui se passe. Voilà. Et Charlotte aussi qui est là pour les étudiants et les profs plutôt. Voilà. On écoute ?
Du lycée Guinmer, on est un lycée professionnel et le rectorat a décidé de supprimer le poste de chef des travaux adjoint et de le mettre sur un autre établissement, donc de nous laisser sans cette fonction essentielle dans le lycée, sans cette personne essentielle dans le lycée, puisqu'il gère tout le lien avec les entreprises, comment nos élèves trouvent des stages, comment ça se passe dans les milieux professionnels, dans les entreprises. Et par ailleurs, il gérait aussi tout l'entretien du système informatique. Bref, une personne très très importante pour nous. Et on l'a appris par hasard un peu. Et on n'a pas, a priori, grand chose à dire sur ça et sur notre vie au travail, en fait. De manière générale, dans de nombreux lycées, si on reste dans le côté éducation nationale, il y a eu des suppressions de postes administratifs sous la direction, enfin les dernières recommandations du gouvernement. Hein. Et ça vient dans cette politique de, sans doute, amenuiser, affaiblir le service public de manière générale. Et donc, par là, on retrouve la lutte avec les cheminots, par exemple. Pour moi, ça a tout le même sens. On fait en sorte que le service public ait de moins en moins de moyens pour... Et du coup, on fait mal notre travail. En tout cas, il faut toujours qu'on s'adapte pour essayer de faire un travail correct avec toujours moins de moyens. Et ça marche pour tous les services publics.
Moi, je suis à la CNT et du coup, je fais partie des étudiants en lutte sur le campus, du coup, qui occupe le centre des langues vivantes, centre des luttes vivantes, du coup, en ce moment. Et le 1er mai, pour nous, l'objectif, c'est de montrer que les étudiants sont mobilisés et puis de voir un petit peu ce qu'on est. On a aussi un peu besoin d'interpro parce que sur le campus, on a vite tendance à se sentir un peu isolé. Du coup, voilà, nous, ça nous fait plaisir d'être là et puis... d'essayer de tisser des liens avec les cheminots, les cheminotes. L'énergie, on n'a pas eu trop de liens. Si, par exemple, les cheminots et les cheminotes viennent souvent dans nos assemblées générales. Mais ouais, ça serait bien, histoire de relancer un peu le mouvement social, se donner de l'énergie pour relancer, quoi.
Je m'appelle Ruth Eskenazi. Je suis au SNES, mais avant tout, je suis psychologue de l'éducation nationale. Je travaille dans un centre d'information et d'orientation sur les métiers. Donc, je suis rattachée à un CIO. Mais je travaille également en lycée et à mi-temps à l'université. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est donc le gouvernement qui a prévu de transférer, il y a un projet de loi qui a été présenté en Conseil de ministres, qui a prévu de transférer en fait l'information sur les métiers à la région et donc aux branches professionnelles en fait. Le ministère de l'Éducation nationale va plus loin encore. Il prévoit de fermer les centres d'information et d'orientation auxquels nous sommes rattachés et donc priver le public que nous recevons, c'est-à-dire les étrangers nouvellement arrivés en France, les jeunes déscolarisés. Nous recevons également des adultes en reconversion professionnelle d'un lieu d'accueil public et de conseil en matière d'orientation. Et nous craignons qu'il y ait un transfert vers le privé, une privatisation en fait de la fonction d'orientation. Le marché de l'orientation est un marché très lucratif parce qu'on joue sur l'anxiété des familles. Et puis voilà, le transfert aussi à la région de cette information sur les métiers qui était faite localement par des délégations régionales, et donc soumettre en fait cette information aux métiers des branches professionnelles qui viendraient intervenir dans les lycées. Le problème, ce n'est pas qu'elles viennent intervenir, mais que ce soit elles qui fassent uniquement l'information sur les métiers en fonction de besoins économiques à court terme. Et nous voulons donc la même information pour tous les lycéens sur tout le territoire français, quels que soient les besoins économiques locaux. Là, je parle en tant que psychologue de l'éducation nationale dont le service est menacé, mais je me sens solidaire de tout ce qui se passe dans le service public. Là, c'est tout le service public qui est menacé, tout ce qui fait la solidarité nationale et qui fait que tout le monde a accès de la même manière à l'ensemble des services publics. Là, on va créer donc des familles favorisées qui iront se payer les services d'une officine, et je peux vous dire que ce service que nous rendons nous gratuitement est quand même facturé entre 400 à 500 euros aux familles. Mais bon, c'est un des aspects du service public uniquement. Au niveau du ministère du Travail, je pense qu'on peut vous dire la même chose. Le service rendu au public est réduit de moitié dans certaines directions départementales, faute de personnel suffisant pour recevoir le public et donner une information gratuite en matière de droit du travail. Et je pense qu'à Télécom, on peut vous dire la même chose, que dans tous les services, voilà.
Retour à l'antenne, du coup, sur Kaléidoscope 97 FM. Vous voulez réagir direct à ce petit reportage là sur les différences qui a été pris comme ça au hasard dans la manifestation? Il y a une constante quand même dans ce que les gens disent. Comment vous voulez réagir, Charlotte, peut-être?
Oui, voilà, moi je veux bien pour l'éducation. C'est chouette d'avoir donné la parole au personnel du lycée Guinemer, parce qu'en fait, ce qu'on rencontre quand même dans ce secteur-là, c'est des grosses difficultés à mobiliser. Alors, c'est pas faute d'avoir proposé des dates sur les questions de la fonction publique en octobre, en mars, mais aussi le 5 avril, il y avait une journée de mobilisation contre la précarité dans l'éducation. Il y avait là le 3 mai à l'initiative de syndicats, ouais, 3 mai pardon, à l'initiative de plusieurs syndicats de la FSU. Et puis là, on continue à donner des dates. Il y a probablement le 16 mai qui va sortir comme journée de mobilisation nationale pour l'éducation et les étudiants. Et puis évidemment le 22 mai. Alors comment ça se fait qu'on a du mal à mobiliser? Il y a la question de la mémoire des équipes. On sait qu'on a du mal à remporter, enfin, date les dernières victoires. On a affaire à un durcissement aussi du pouvoir en face, et ça joue sur l'organisation collective, que ce soit les chefs d'établissement, les inspecteurs de circonscription, mais même un peu plus haut. En fait, on se rappelle la lutte du collège Vercors, qui a dû attendre plusieurs semaines avant d'avoir un rectorat qui daigne écouter les raisons des mobilisations. Je voulais dire aussi, ouais, c'est des conditions de travail qui se détériorent avec des pratiques managériales qui sont de plus en plus violentes, et puis un enseignement par compétence qui est pas exactement ce pourquoi beaucoup d'entre nous sont là, mais le lycée Guinemer, en fait, il fait écho notamment à la lutte du lycée Deschaux qui s'est mobilisé pendant plusieurs semaines et qui a récupéré son poste de secrétaire des élèves. Donc enfin voilà, faut pas se tromper de focale, on pourrait imaginer la phrase quand le sage montre la grève reconductible et la grève générale, l'idiot regarde les défaites. En fait, pour rester dans le secteur de l'éducation, le plafond de verre par lequel nous regarde le pouvoir est pas si solide, et puis encore une fois Vercors, quoi. Un peu dernièrement, qui a obtenu beaucoup plus que ce que d'autres obtiennent, c'est-à-dire après un certain nombre de... Pardon, je parle trop loin du micro.
plusieurs semaines
de mobilisation, ils obtiennent un demi-poste de CPE. Donc,
un demi-poste de CPE.
Ce qui est quelque chose qui ne s'obtient jamais, sauf en l'ayant perdu. Donc c'est à la fois difficile et en même temps... Le calendrier, la temporalité, elle est rapide, et c'est maintenant et aux côtés des cheminots qu'il faut, qu'il faut se mobiliser comme l'ont fait les COPSI aussi le 3 mai qui apparaissait là dans le reportage.
Et là, tu parles la lutte du Collège Vercors, la lutte de Guillemère. C'est comme si, en fait, ces luttes-là, elles étaient établissement par établissement. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que une lutte, il y a quelque chose qui ressemble à une lutte plus globale au niveau des lycées? Est-ce que c'est à chaque fois des luttes spécifiques qui partent d'un établissement et...
Moi, c'est ce qui me semble péché dans ces luttes-là, c'est que ça n'a pas fait tache d'huile. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir pour beaucoup de travailler dans des établissements qui peut-être à l'endroit des vies scolaires sont au bord de l'implosion. Mais il y a, pour les raisons citées, parce que c'est compliqué, aussi de se mettre en grève, parce que pour beaucoup, en termes de charge de travail, en fait, ce sera juste travailler deux fois plus le reste de la semaine parce qu'on a peu de victoires et parce que peut-être on relève pas assez la tête pour regarder quelles sont nos victoires et comment massivement en fait les choses peuvent s'accélérer.
Et du coup, comment communique cette lutte? Alors à chaque fois, moi, je parle comme si les luttes devaient forcément communiquer entre elles. Mais là, bon, il y a la lutte, les établissements scolaires, les lycées. Les liens sont faits avec ce qui se passe à la fac aujourd'hui. Comment ça se passe?
Il y a des tentatives. Donc, par exemple, le bâtiment qu'on occupe à la fac, il a accueilli à plusieurs reprises des cheminots venus partager avec nous ce qui se passe dans les gares aujourd'hui. Il a également accueilli une assemblée générale des lycéens et des lycéennes mobilisés, donc qui avaient fait une manifestation le matin et puis qui sont venus s'organiser après chez nous, enfin chez nous, sur notre lieu de lutte à nous, pour discuter en assemblée générale. Donc il y a des tentatives. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Par exemple, nous, à l'université, on rencontre déjà, rien que sur le petit espace que constitue l'université, des difficultés à mobiliser nos enseignants et les personnels administratifs. Et du coup, on ne veut pas avoir non plus la prétention. Cet appel à la convergence, il revient à chaque mobilisation. On appelle toujours à la convergence. Mais c'est un mot qui sonne de plus en plus creux, parce qu'on n'arrive jamais vraiment à savoir ce qu'on entend par convergence et comment le faire. Et... La première limite qu'on voit à ça, c'est que nous-mêmes, sur l'université, on n'arrive déjà pas, entre étudiants, personnel administratif, enseignants, à s'entendre et à se soutenir les uns les unes les autres. Du coup, c'est très compliqué. On rame, mais l'idée, elle est toujours là, de voir comment on peut... Il y a des étudiants qui vont aux AG des cheminots qui viennent aux AG, des postiers, des postières qui viennent nous parler aussi de ce qui se passe à la poste. Des personnes qui ont fait des mouvements antérieurs, notamment le CPE, et puis qui viennent nous revoir là, puis qui viennent discuter avec nous aussi. Donc il y a des ponts comme ça qui se font, mais en tout cas le front large, toutes et tous contre Macron, pour l'instant ça prend pas, et il faut même questionner en fait la faisabilité d'un tel front. Moi, je pense qu'il faut interroger ça et voir comment on peut fonctionner autrement sans faire un appel à la convergence.
C'est vrai que la question de la convergence, elle est compliquée déjà entre les différents secteurs, parce qu'il y a la question de la temporalité. En fait, on n'a pas du tout la même manière dans une année de se mobiliser, suivant si on est étudiant, étudiante, cheminot, cheminote, etc. Parce que là, pour les étudiants et étudiantes, il va y avoir les partiels, qui nous font quand même une date limite un peu compliquée à gérer. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi du mal à mobiliser, effectivement, les personnels, comme le disait Idriss, parce que... On a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression, qu'il y a une espèce d'individualisme, que les profs ont du mal à se voir comme un tout, entre guillemets. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même un faible taux de syndicalisation, un faible taux de profs syndiqués. Du coup, ça aide pas. Et on a eu la dernière assemblée générale où, entre étudiants et étudiantes, on a eu voté en assemblée générale d'appeler à... une assemblée générale avec les personnels, les profs, et que histoire d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse faire une forme de convergence sur le campus déjà. Et ça n'a pas été appelé par les syndicats pro, parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas assez de profs qui pourraient venir et que ça donnerait une mauvaise image au mouvement. Donc à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué parce que du coup, si les syndicats pro ne suivent pas, on ne peut pas aller chercher les profs un par un pour les encourager à venir se mobiliser.
Et du coup, parce que moi, je travaille dans le privé. Alors, en fait, nous, on a connu deux grosses mobilisations là, dans les années précédentes, hein, contre la loi El Khomri et puis contre la loi travail. Bon, et c'est vrai que, bah, on a connu en fait deux grosses défaites. Et aujourd'hui, ça pèse massivement. Alors, du coup, dans le privé, ben, à la fois, c'est compliqué parce que les gens sont attachés aux services publics, que ce soit celui de la Poste, de la SNCF, de l'éducation, en voyant bien ce qui leur manque, quoi, et ce qui va leur manquer d'autant plus si c'est privatisé. Et à la fois, ils voient mal comment eux peuvent être les acteurs de ces mobilisations et de ces combats-là, si ce n'est par une solidarité indirecte. Donc bon, et en même temps, on voit dans le privé aujourd'hui les conséquences des réformes sur le code du travail, bon voilà, avec la destruction des instances représentatives du personnel et l'annonce finalement de ce qui va se passer dans tout un tas de secteurs qui étaient encore relativement protégés, on va dire, aujourd'hui, que sont les services publics des salariés fonctionnaires de ces différents services publics. Bon, et voilà, et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que la convergence, à mon avis, elle se pose aussi en termes de revendications, c'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce qui nous unit tous ensemble pour mener un même combat et donc se retrouver. Et c'est vrai que cette question des services publics, du coup, elle est un peu centrale, mais on a tellement reculé aujourd'hui sur c'est quoi notre salaire, c'est quoi notre salaire socialisé et comment ces services publics font partie de la redistribution des richesses parce qu'ils assurent l'égalité à tous et à toutes de l'accès à l'éducation, à la santé, au transport, ben que voilà, aujourd'hui, on a du mal à concevoir cette bagarre-là autour des services publics comme la bataille de l'ensemble du monde du travail, en fait. Bon, et c'est nous, ben là où je bosse dans une grosse boîte de microélectronique du coin là, du coup on a distribué, hein, pour voilà, quand c'était les manifs autour des services publics, nous-mêmes en tant que syndicalistes de la CGT, on est allés voilà, porter ce message de solidarité. On était là le 19 quand c'était l'Interpro. Bon, mais on manque de tâches concrètes, quoi, pour mobiliser les gens là-dessus, en fait.
Quelqu'un d'autre veut réagir, ouais.
Ouais, juste pour dire quand même pour à la décharge des, enfin à la décharge, je sais pas, mais en tout cas concernant les universités, il y a la première coordination nationale des universités qui s'est réunie. Alors c'est vrai que ça vient un peu tard, mais avec un front assez large de différents syndicats et qui appelle évidemment au 22, qui appelle aussi au 16 et qui, parmi d'autres choses, demande l'arrêt notamment immédiat des interventions des forces de police, la défense et l'amélioration des statuts des personnels et puis la grève illimitée et reconductible avec cessation réelle d'activité. Donc peut-être que du côté des enseignants de l'université, les choses vont se durcir. Cette coordination, elle a eu lieu ce week-end, en fait, hier. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'est enfin une bonne nouvelle qui arrive pour nous, étudiants mobilisés, qui arrive un peu tard, et ça repose la question de la temporalité que Salomé abordait. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est bientôt à un mois de blocage quotidien et d'occupation, d'assemblée générale, du comité de mobilisation. Enfin, on vit à un rythme effréné en ce moment, en tant qu'étudiant mobilisé. Et de voir cette CNU, là, cette coordination nationale universitaire qui intervient là ce week-end et qui appelle à la grève illimitée, ça nous motive encore à continuer. Et j'espère que le gouvernement et la présidence de notre université Grenoble-Alpes prendra note. Qu'en fait, qu'on continue et qu'en fait, on lâche pas et qu'en plus, on a le sentiment qu'on arrive aussi à pousser les personnels à nous suivre. Et voilà, c'est plus que positif pour nous. Et c'est des petites victoires comme ça qu'on apprécie.
Merci. On reviendra tout à l'heure. On voulait passer un petit morceau de musique pour faire une petite pause et notamment un morceau que Charlotte, tu as choisi. Est-ce que tu peux le présenter? Alors juste avant, quand même, il y a un morceau qui est passé tout à l'heure, qui a été choisi par Seb. Et on l'avait ni annoncé, alors je le désannonce. Mais peut-être Seb, tu peux le désannoncer toi. C'était quoi ce morceau qu'on a écouté tout à l'heure, juste avant le reportage sur la manif du 1er mai?
C'était un titre des 3-8 qui s'appelle « Jeunesse fichée ». Dont les paroles, je vous invite à écouter les paroles, vous trouvez facilement sur le web. Donc jeunesse fichée, ça veut dire ce que ça veut dire, avec une répression policière infernale dans tous les domaines, que ça soit en ce moment chez les étudiants, contre les étudiants, il y a la répression policière partout, et c'est quand même hallucinant, inadmissible, et il faut vraiment serrer les coudes contre ça. Bon, du groupe. C'est les 3-8, bien sûr, j'ai dit. Ouais, les 3-8 jeunesse fichée.
On me fait des signes en régie, là, où on me dit qu'il est très peu passé. On ne s'est pas rendu compte, nous, ici, dans le studio. Donc, peut-être qu'on le repassera plus tard, à la fin. Voilà. Et pour l'instant, on va passer le morceau de Charlotte. Du coup, c'est quoi que tu as choisi?
Eh ben, c'est un morceau d'un groupe lyonnais qui s'appelle Odyssey and Oracle. Vous allez l'entendre, hein, qui fait de la pop baroque. Et le morceau, il s'appelle Epiphany, il est de leur deuxième album, et ça pose la question de renverser le pouvoir. Du coup, je me disais que c'était plutôt approprié.
Voilà. Alors, on écoute. Retour sur Kaléidoscope 97 FM. On est là avec plein de monde sur le plateau sur la question du mouvement social. On a coupé un petit débat tout à l'heure, ça s'est enchaîné, il y avait plein de questions qu'on avait envie de poser. Je me demande, je voulais repasser, donc je regarde en régie, c'était pas prévu comme ça, mais est-ce qu'il est possible de passer dès maintenant la petite minute de reportage qui a été prise en 1er mai? Ça s'appelle... configuration syndicale. C'est bon? Super. Comme ça, ça nous permettra d'enchaîner direct sur toutes les questions qu'on se pose après et pas de faire de coupure. On y va!
On est là dans une configuration syndicale un peu particulière puisque la CFDT et FO n'ont pas appelé à manifester au 1er mai. Donc on se retrouve avec trois syndicats, c'est-à-dire la CGT, bon, évidemment, qui est un groupe action solidaire qui est Radical Mais Peanuts, et la FSU qui est peut-être encore plus peanuts en termes de massification dans la manif. Donc trois syndicats qui appellent pour la fête des travailleurs et travailleuses du 1er mai, c'est pas grand-chose. Dans une période où on essaye d'appeler à la convergence des luttes, c'est sûr qu'il y a encore du boulot, quoi.
Et ça s'explique comment?
Bah, malheureusement, je crois qu'il y a une lecture électoraliste à voir derrière, puisque les élections se passent en décembre 2018, et on le voit bien dans les mails, etc., que c'est déjà dans la lecture de très grosses structures syndicales, et notamment celles qui ne sont pas affiliées à un syndicalisme de lutte. La CGT est déjà un peu dedans, mais elle sort les gros bras pour aussi montrer qu'elle est là et elle a raison de le faire. Et FO et la CFDT, bon, encore plus la CFDT, mais FO aussi essaye de jouer le syndicalisme de dialogue pour essayer de prendre et manger des votes pour les prochaines élections.
Micro-ondes. Sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Nous sommes en mai, faites ce qui vous plaît.
Cette intervention de camarade est intéressante parce qu'elle pose effectivement la question de... Des différentes possibilités qui s'offrent dans le cadre du syndicalisme. C'est-à-dire le syndicalisme, il me semble qu'il l'a nommé de dialogue, et puis le syndicalisme de lutte, dans lequel la CNT, on s'inscrit.
D'ailleurs, vous appeliez, vous étiez le quatrième syndicat. Il n'y avait pas que trois syndicats, il y avait aussi la CNT.
Effectivement, la CNT. Et c'est vrai que quand un mouvement se durcit, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs semaines sur les facs et dans les gares, où le mouvement, la mobilisation durcit, c'est-à-dire durcit le ton, durcit les revendications, et veut pas un amendement sur une réforme, mais veut son retrait pur et simple, et même au-delà du retrait, interroger ce qu'il y avait avant la réforme. C'est-à-dire à l'université, par exemple, on défend plus de moyens, plus de profs, et donc on veut pas simplement que la réforme soit retirée, on veut aussi que l'université s'améliore et qu'elle reste pas comme elle était avant la réforme. Et du coup, c'est cette question du syndicalisme, lutte, dialogue, en ce moment, elle explose. C'est-à-dire que les débats commencent à devenir de plus en plus virulents. Et on l'a vu après le 1er mai. Alors, c'est pas forcément dans le cadre du syndicalisme, mais quand on voit les déclarations de Pierre Laurent ou de Jean-Luc Mélenchon après la manifestation du 1er mai, on voit qu'il y a deux manières de voir les 50 ans de mai 68.
Tu peux resituer?
Eh bien, c'est suite au fameux Black Bloc du 1er mai à Paris. Donc, un incendie de McDonald's, de quelques voitures et de panneaux publicitaires. Le PCF et la France Insoumise se sont positionnés en critique de ce mode d'action qu'est le Black Bloc, cette pratique qu'est le Black Bloc, et en le criminalisant. Simplement, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une critique qui pourrait être un peu constructive sur ce que ça signifie d'employer ces modes d'action lors d'une manifestation, mais en condamnant fermement la violence et en prétendant même que ça pouvait être l'extrême droite, la police ou on ne sait quelle autre chose qui aurait pu chapeauter ces violences-là. Donc du coup, on voit que le débat, vraiment, il est haut dans son intensité et que... Quand vient la fin un peu d'une année comme ça, nous sur l'université, c'est un débat qu'on voit aussi très présent. C'est-à-dire, on se dit, bah ouais, mais ça va être les vacances. Et du coup, est-ce que c'est pas le moment de monter en intensité et de faire des trucs un peu ouf? Et puis, d'autres qui disent qu'il faut plutôt continuer le mouvement tel qu'il se passe. C'est-à-dire, continuer les blocages, continuer les appels à la grève, sans forcément passer à d'autres modes d'action qui seraient un peu inappropriés. Donc voilà, un débat vraiment d'actualité.
D'ailleurs, petite précision quand même. Enfin, on parle de. Enfin, il est courant que des types d'actions comme ça soient discréditées. Et d'ailleurs, souvent, on parle de violence, alors que, rappelons-le, il s'agit de dégradation et pas de violence. Et que ces dégradations ne sont jamais gratuites. Elles s'adressent souvent à des choses qui sont des symboles du capitalisme. Voilà.
Justement. Effectivement, ça pose la question du mot qu'on met sur les. Les actions qui ont été faites, ça pose la question de la violence que je trouve un peu hypocrite, dans le sens où on a un gouvernement qui nous dit que c'est violent de faire cramer un McDo, mais par contre le fait qu'on ait des précaires qui galèrent tous les jours ou qu'il y ait des suicides, comme ça a été dit tout à l'heure, des personnels des hôpitaux, ça c'est pas considéré comme de la violence bizarrement. Et c'est vrai que la question, comme le disait Idriss, de savoir... pour quel type d'action on utilise, elle s'est beaucoup posée au début du mouvement sur la fac, où on a décidé de faire en sorte que ce soit le plus pacifiste possible, qu'il n'y ait aucune violence, que ce soit des dégradations, des violences sur les personnes. Et c'est un débat effectivement qu'on a de nouveau en ce moment, et on est plutôt toujours dans une ligne un peu pacifiste, entre guillemets, et qui ne fait pas l'unanimité d'ailleurs dans les militants et militantes. Mais même parmi les plus pacifistes d'entre nous, il y a quand même une petite volonté de durcissement, parce qu'on voit que la présidence nous refuse le dialogue, l'administration nous refuse le dialogue, et au bout d'un moment, pour se faire entendre, il faut aller vers des moyens d'action un peu plus radicaux.
Après, moi, je trouve que ce débat-là autour de la violence, c'est un débat intéressant, hein, bien sûr, et puis il se pose. Après, pour moi, le premier débat, c'est la question de la massification, en fait, du mouvement. Et alors, du coup, ça va être un peu caricatural, parce que moi, je suis donc dans l'industrie, je milite à la CGT, donc les termes du débat se posent évidemment pas tout à fait dans les mêmes termes. Pour suivant la taille et la représentativité, on va dire, du syndicat. Et du coup, c'est une question centrale, parce que si je reprends la question de la loi travail, donc dans ma boîte, il y a 4000 salariés. Quand on était au plus fort des mobilisations, hein, donc c'est-à-dire quand même des trucs très massifs à la fois à Grenoble et nationalement. Donc nous, on a une trentaine d'élus CGT, on était évidemment tous dans la rue mobilisés en grève. Et au plus fort du mouvement, on a emmené 10 salariés des 4000. Voilà. Mmh. Donc c'est aussi ça dont il faut se rendre compte, c'est que la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment on met massivement, voire majoritairement, les salariés en grève aujourd'hui. Parce que les attaques, elles sont d'ampleur. Et il y a à la fois, je pense qu'il y a deux questions, en fait. C'est, est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? Bon, je pense que là, vu l'ampleur des attaques, on peut répondre oui. Et après, est-ce qu'on pense qu'on peut gagner? Est-ce que du coup, ça sert à quelque chose de perdre son salaire, de s'en prendre plein la gueule, de risquer son augmentation, voire son emploi? Et parce que nous, parce que c'est quand même des choses qui est importante de redire, quoi. Quand nous, on se met en grève, les chefs, ils se mettent dans le couloir et ils notent les noms un par un des gens qui descendent en grève. Voilà, et c'est ça aussi la violence quotidienne du monde du travail. Et ça, faut le redire, parce que c'est pas juste, tiens, si on allait à la manif, c'est sympa, il fait beau, en fait. Voilà. Aujourd'hui, simplement se mettre en grève dans le privé, c'est assumer un niveau d'affrontement avec son chef direct, donc au quotidien, qui est vraiment voilà, important, violent, et qui demande une détermination, qu'il faut que le jeu en vaille la chandelle et qu'on pense que ça serve à quelque chose, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment important ce que Alice vient de dire. Il y a quand même tout ce côté de, on l'a dit tout à l'heure, bon, il y a la répression policière d'un côté, mais il y a la répression antisyndicale de l'autre. On vit une souffrance, évidemment, chez de nombreux collègues à nous, des militants syndicaux, c'est vrai, principalement des Sud, CGT, CNT, qui en prennent plein la gueule à foison au quotidien. Il y a quand même tout le boulot qu'on fait en CHSCT et que le gouvernement, évidemment, veut supprimer très rapidement. Hein. Les CHSCT et les DP vont fusionner à cause du gouvernement, ça va être une catastrophe. Et tout le suivi qu'on fait régulièrement avec des droits d'alerte, des enquêtes, etc., pour justement constater cette souffrance au travail, pour constater les pressions énormes que vivent autant les militants syndicaux que les salariés et précaires, ça, vraiment, on continue de le dénoncer et il faut continuer de le dénoncer. Il y a, je fais une parenthèse sur tout le boulot qu'ont fait les copains de Sud PTT en national, qui ont quand même eu le courage de déposer plainte contre l'ancien PDG de La Poste avec un juge d'instruction, une mise en examen. C'est quand même très rare envers des gens là-haut, des énarques et des patrons de grandes entreprises. Donc c'est quand même des choses qui faut qu'elles aboutissent. Il y a aussi eu il y a l'enquête judiciaire qui est importante pour nous, les cheminotes et les cheminots, par rapport à la catastrophe de Brétigny. Et évidemment, notre président Pépi et les autres et ses adjoints, ils portent une responsabilité lourde parce que évidemment, la déconstruction, la désorganisation des collectifs de lutte à cause des pressions de nos patrons et nos chefs. Ça fait qu'on en arrive là. Le recours systématique ou extrêmement fréquent aux sous-traitants, aux boîtes sous-traitantes qui sont tous des précaires, évidemment, des salariés précaires. Ce recours à toutes ces boîtes de sous-traitants, on court à la catastrophe. Donc évidemment, les cheminotes et les cheminots, on reste extrêmement attachés à nos missions de service public et à notre travail destiné à tout le monde. Là, quand on voit, je me dis quand même, au niveau de la répression dans les boîtes, il y a quand même des collègues qui sont suicidés à cause du travail. Ils ont laissé des courriers et on a des preuves que la souffrance au travail et le mal-être qu'ils avaient profond au travail fait quand même que ça a engendré beaucoup de troubles justement au travail. Et puis ça a engendré quand même des suicides de collègues au travail ou à cause de leur travail. C'est quand même un truc de fou.
Et ça, la question des suicides, on le voit un peu aussi chez les étudiants, parce que nous, en tant que syndiqués, on a aussi vocation à aider des étudiants au cas par cas quand ils rencontrent des problèmes avec l'administration. Et des étudiants, des étudiantes en dépression, en burn-out, on en voit tout le temps. Et c'est assez dingue de se dire que quand même, on n'est que étudiants, étudiantes entre guillemets, il y a un peu l'image que bah, quand on est étudiant, on ne fout pas grand-chose et qu'on passe sa vie à faire des fêtes entre deux partiels. Et en fait... dans les faits, il y a un taux, je crois qu'il est encore plus important chez les doctorants et doctorantes, mais déjà, rien qu'en L1, il y avait, je me souviens plus exactement des chiffres, mais le taux de stress, d'anxiété au centre de santé, ils nous le disent tout le temps. Chaque fois qu'on va les voir pour ce genre de problème, ils disent « Ah oui, vous n'êtes pas les seuls ». Et c'est assez dingue quand même de se dire « Bon bah voilà, je vais rentrer à la fac, est-ce que je vais arriver à en sortir sans être complètement déglingué et avant d'arriver sur le marché du travail me faire de nouveau défoncer parce que bah, mon travail sera forcément dur et compliqué.
Oui. Moi, ça m'évoque aussi que d'abord, enfin, je me permets du coup de réagir à vous. Je vais plus poser de questions là. Allez, j'y vais. Non, mais ça m'évoque deux choses que vous dites. D'abord, la question de la privatisation, elle est là depuis les années 80 et que les gens sont petit à petit complètement habitués à voir que un service public disparaissait au profit d'un service au public et que chaque service devenait payant. Et c'est comme si c'était un truc qui devenait normal, même si au fond on trouve que c'est pas juste. Mais il y a un truc qui est presque enfin qui est là acceptée. Et puis j'ai oublié ma deuxième idée. Ma mince alors. Voilà. J'ai plus. Enchaîner parce que du coup j'ai oublié ma deuxième idée moi.
Ouais, je trouve intéressant cette idée effectivement que alors moi les années 80 je les ai pas connues hein. Mais
moi oui.
Effectivement il y a peut-être eu l'habitude de voir des services publics disparaître, être mis en question, voir leurs modalités se modifier, devenir des services au public. Et ça soulève la question de la bataille culturelle, c'est-à-dire ce que nous on arrive à mettre en place pour montrer que en fait il y a d'autres choses qui sont possibles. Il y a eu autre chose avant cette privatisation des services publics, et je pense notamment au film La Sociale. Ça, c'est des films qui nous font du bien et qui permettent de mener cette bataille un peu sur le plan culturel, de dire en fait il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont duré dans le temps et qui ont fonctionné et qu'on doit aujourd'hui sauvegarder parce que la sécurité sociale, c'est la sécurité sociale pour toutes et tous. Sans condition, il faut que ça le reste. Et c'est pareil pour l'université, dire en fait cette exception un peu française de l'université ouverte à toutes et tous ceux qui ont un bac, il faut que ça demeure. Nous, notre travail en tant que militants et militantes, c'est aussi de porter ça, de dire qu'en fait on peut pas juste gober tout ce qui nous est envoyé comme propagande. Libéral, qui nous dit qu'en fait ça fonctionnera mieux parce que ce sera privatisé ou ce sera mis en concurrence. C'est-à-dire qu'en fait ça peut aussi mieux fonctionner quand c'est public et que c'est pareil pour tout le monde et que l'égalité ça fonctionne. Mais c'est quelque chose de laborieux parce que souvent quand on a toujours l'image de la personne de gauche avec son vieux tract, puis personne de gauche c'est un peu gris, c'est froid, et puis les services publics, et puis l'égalité, et puis tout ça, c'est pas chouette, mais en fait, aujourd'hui, on essaye aussi de trouver d'autres moyens de communiquer, plus un peu dans l'air du temps, et qui permettent de montrer qu'en fait, l'égalité, c'est toujours d'actualité.
Oui, moi, je pense qu'il y a aussi un travail à faire avec les usagers. Dès lors qu'on parle de service public, de fonction publique, alors évidemment, on dit ça aussi parce que même s'il y a le projet la CAP 2022 qui promet de casser, de donner un vrai coup dans les genoux à la fonction publique, ça aurait peut-être dû mobiliser massivement les équipes. En fait, ça marche pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle des usagers, mais c'est à travers les usagers, c'est aussi quel projet de société on a envie de porter. Alors, à Grenoble, il va probablement y avoir des discussions entre équipes et parents d'élèves pour dire quelles vont être les conséquences si les moyens continuent de baisser, si on se mobilise pas tous ensemble. Et puis ce qui se passe aussi au lycée, hein, qui voit pareil un tournant sur ce que peut être le système éducatif si cette réforme se met en place et si on lutte pas assez. Est-ce que je peux en dire, est-ce que j'ai le temps d'en dire deux mots
Oui.
Ouais.
Ah oui.
Parce
bien
que
sûr, faut le prendre.
En fait, c'est un peu troublant comment à travers leur fameux parcours individualisé, les élèves vont se retrouver beaucoup plus isolés à un âge où ils ont plutôt besoin de se construire collectivement et de construire du collectif, qui va aussi accentuer les inégalités de traitement, parce qu'en fait on nous dit qu'ils pourront choisir tous les enseignements qu'ils veulent à l'échelle d'un bassin, c'est-à-dire d'un territoire, sauf qu'en fait on sait très bien qui n'aura pas les moyens de faire 20 bornes, de se déplacer à distance de chez lui pour aller étudier. Donc c'est quand même un système de discrimination assez forte. Et puis ce qui est aussi vraiment inquiétant, et d'autant plus inquiétant que ce soit pas des soulèvements dans toutes les salles de lycée, c'est l'orientation précoce qui est demandée en fin de seconde, alors que non, en fait le lycée c'est aussi un espace où les élèves doivent se construire. On doit les Non, l'entreprise n'a pas, ni le néolibéralisme n'ont pas à mettre les pieds dedans. Donc, ce travail-là de discussion, c'est peut-être ce qu'il est urgent de faire, en plus de rappeler que c'est un peu le pendant de ce qui se passe pour les cheminots et pour le reste des services publics.
En plus de descendre dans la rue, en plus d'utiliser différents modes d'action, on n'est pas revenu beaucoup sur ça, mais moi j'avais une question tout à l'heure qui était sur la diversité des modalités d'action et le fait que on attend toujours d'une convergence de lutte que tout le monde se mette ensemble et trouve un mode d'action commun avec des mêmes mots communs. Aujourd'hui, si on veut revenir à quelque chose d'un peu positif aussi, parce que est-ce que le fait que il y ait des choses et des feux qui s'allument un petit peu partout, avec quand même dans les propos de chaque endroit où ça flambe une vraie solidarité avec les autres endroits, est-ce qu'il n'émerge pas là tout simplement des nouvelles manières de faire de la convergence en fait? C'est une question, c'est un désir peut-être plus qu'une question.
Non mais ça c'est une vraie question, les temps où on se retrouve, comment on fait pour se retrouver, tout ça. Après moi je crois que la question qui est posée aux cheminots mais qu'ils nous posent aussi à toutes et à tous, c'est la question de la grève, et celle-là il faut l'affronter en fait au bout d'un moment. Parce que si on... tant qu'on fera que la fête... Je crois pas qu'on leur fera beaucoup peur, ni au gouvernement, ni au patron, en fait. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est relativement loin de ce niveau de conscience. Et je crois que nous, il y a vraiment cette bataille à mener sur ce qui se présente à nous, c'est-à-dire l'ampleur des attaques, là, maintenant, tout de suite, et de ce qui se dessine derrière, avec les retraites, avec la sécu, que ce qu'ils veulent, c'est casser l'ensemble du système de solidarité. Donc à un moment, il faut qu'on arrive à faire comprendre ça aux gens, c'est-à-dire que là, maintenant, il y a une bataille de société vraiment qui se pose, et que donc l'enjeu en vaut la chandelle, et que le niveau de violence en face et le niveau de détermination, il nécessite que nous-mêmes nous l'ayons, et ça doit passer par le fait de bloquer et donc d'être en grève, c'est-à-dire de plus rendre les services publics, de plus faire que la production sorte des usines. Et cette question-là, il faut la poser. Et après, je crois que nous, on doit aussi porter cette idée que c'est possible. Voilà. Et c'est possible parce que ça a déjà été possible par le passé dans d'autres conditions parfois plus détériorées qu'aujourd'hui, par exemple à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et que c'est possible parce que des victoires on en connaît aussi aujourd'hui, que ça soit les salariés du ménage en banlieue parisienne, que ça soit les sans-papiers qui ont obtenu leur régularisation, que ça soit dans certains hôpitaux qui ont obtenu des postes supplémentaires, que ça soit des exemples plus près comme le collège Vercors ou des choses comme ça. Des victoires il y en a, mais effectivement elles demandent aujourd'hui un niveau de détermination, voilà, et un niveau de lutte qu'on n'a pas, enfin voilà, à la fois qui ne doit pas nous faire peur, mais dont on doit avoir conscience. Et je crois que c'est un peu l'enjeu des débats aussi maintenant pour nous en tant que militants, et qu'on doit porter à une plus large échelle.
Alors c'est vrai que c'est exactement ça, cette question de la grève, elle est essentielle et primordiale. Évidemment, les Sudrail solidaires, on dit et on redit et on martèle qu'il faut, de toute façon, pour y arriver, une grève reconductible illimitée, reconductible par Assemblée Générale. Parce que dans chaque Assemblée Générale, les collègues peuvent s'exprimer, les cheminots et autres peuvent s'exprimer, qu'on voit chez les étudiants ou dans d'autres secteurs à plus petite échelle, dans des petites luttes. Les Assemblées Générales sont là pour prendre des décisions collectives et militantes ensemble. Évidemment, par exemple, à la SNCF, je prends cet exemple parce qu'on est en plein dedans. Oui, les cheminots en lutte ont différentes modalités de grève et d'action. Et cette grève est une nécessité impérative. On continue à lutter en grève parce que c'est que comme ça qu'on y arrive, parce que la grève est une finalité dans nos lieux de travail, dans nos collectifs de travail. C'est un aboutissement final, même si c'est dur, même si on perd beaucoup d'argent. Et ce n'est pas l'ensemble des caisses de solidarité qui nous feront... même si ça aide, évidemment, ça aide et c'est positif. Il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent par solidarité et c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va arriver, tous les cheminots en grévistes en France, tu vois, y arriver complètement. Mais cette question de la grève, elle est essentielle. Et je disais, les modalités d'action ou de grève, là, elles sont un peu différentes. Il y a d'un côté CGT, CFDT, UNSA qui continuent 2 jours de grève perlée par semaine. Mais je suis pas là pour porter de jugement. Mais la question, elle est importante et essentielle. Cette question-là, c'est est-ce qu'on va faire plier le gouvernement en faisant 2 jours de grève perlée pendant 3 ou 4 mois? Ou est-ce qu'il faut bien une grève un jour? À un moment donné, c'est pas maintenant tout de suite, c'est dans quelques jours ou quelques semaines. Il faut impérativement cette grève reconductible par Assemblée Générale au quotidien.
On me dit qu'il est temps, que le temps file. Alors, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour le débat? Comment...
Ouais.
On le prend ou pas? Ah bon. Si moi, je le prends, on fait quand même une conclusion, si on a envie de conclure, là, sur l'émission. Ou on passe un morceau, on en discute et on reprend l'antenne après, s'il faut. Alors, du coup, Seb, on va passer ton morceau.
Ah oui.
En entier, cette fois.
Le titre Jeunesse fichée de nos amis 3-8.
Voilà, alors c'est parti, on lance le morceau. À tout à l'heure. Bon, alors, retour à l'antenne, on a tout plein de trucs à dire. En fait, il faudrait 2 émissions, 3 émissions, 4 émissions. On a, entre autres, envie de parler de la privatisation, de l'ouverture à la concurrence, des nouvelles techniques du management, du vocabulaire aussi autour de la compétence et tout ça. Tu voulais rajouter quand même quelque chose, Seb, sur la privatisation du rail?
Oui, de toute façon, ah, Seb, on refera.
Oui, ouais. Mais du coup, Seb, tu voulais rajouter un exemple un peu concret.
Très rapidement, un exemple un peu concret, c'est la fausse bonne idée de la concurrence et de la privatisation que le gouvernement veut absolument, donc je l'ai dit tout à l'heure, éclater la SNCF en 4 sociétés anonymes sous groupe public ferroviaire. Ça, c'est quand même la catastrophe. Et la fausse bonne idée de la concurrence, c'est l'exemple du fret ferroviaire. Le fret ferroviaire, depuis plus de 12 ans, la direction SNCF et le gouvernement ont explosé le fret. Donc le bilan de l'ouverture à la concurrence est catastrophique. Le trafic ferroviaire fret a baissé de 50%. Il y a beaucoup plus de camions sur les routes. D'un autre côté, la direction SNCF, avec la bénédiction du gouvernement, n'a pas arrêté de multiplier les bus Macron. On le voit partout. Mmh. Avec les TGV aussi vache à lait. Donc les TGV hyper chers. Et d'un autre côté, les bus Macron avec Ouibus, les Ouigo, les TGV pour les pauvres, les Ouigo. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça, vraiment, c'est ça, l'ouverture à la concurrence, c'est déjà là. Donc c'est pour ça que les cheminotes et les cheminots, on ne peut pas laisser passer ça. Et tous les exemples à l'étranger, juste à côté, nos voisins anglais, c'est une catastrophe, la concurrence. Il y a 70% des Anglais qui veulent revenir à la renationalisation des voies ferrées en Angleterre, parce qu'il y a eu plein de morts. Donc, en Allemagne et en Suisse, l'exemple aussi, il est vraiment catastrophique. Donc, il faut impérativement que l'ensemble de la population, avec les cheminotes et les cheminots, on continue de s'emparer et on continue de justement continuer la lutte là-dedans et de ne surtout pas céder face à cette concurrence comme ça qui va arriver. C'est vraiment, il faut lutter.
Bon, merci beaucoup, merci tout le monde.
Merci à vous.
On se dit au revoir. On va enchaîner du coup sur une rubrique qui est là à chaque fois, la rubrique Les mots qui nous changent, une rubrique non mixte. Essentiellement des femmes qui sont interrogées, femmes meufs trans Gwyn. Donc chaque émission, une rubrique. Et puis on enchaînera ensuite sur les brèves et puis l'agenda. Alors pour l'instant, les mots qui nous changent. C'est parti.
Les mots qui nous changent. Et pas n'importe quel mot, puisque ce sont les mots, les concepts, les théories qui nous ont marqués, accompagnés, parfois même révélés, nous, des femmes, des meufs, des gouines, des trans, dans notre parcours d'émancipation et d'autonomie. Des mots qui nous ont aidés à choisir, à décider, à agir. Des mots qui nous changent, c'est donc la rubrique de vulgarisation théorique où l'on se raconte comment la théorie traverse nos vies, jamais très loin de nos expériences, juste assez pour qu'on puisse la bricoler à notre sauce. Baba is calling you. Baba is calling you. Baba.
Eh ben, mon mot, c'est pas vraiment un mot. C'est un concept. Enfin, ça peut se résumer en un mot. C'est un truc qui m'est tombé dessus quand je faisais mes études de sciences sociales. Et donc, c'est un truc plutôt universitaire, je pense, mais qui peut s'appliquer dans plein de domaines de la vie. Et c'est le constructivisme. Juste le fait de voir que les choses sont construites socialement. Et il y a des livres qui parlent de ça. Il y en a un qui est très connu, qui s'appelle « La construction sociale de la réalité », dont je me souviens en fait vaguement que du titre, finalement. Et juste ça, c'est déjà suffisant. Ça m'a mis sur la piste de réfléchir à comment est-ce qu'on présente les choses et comment est-ce que les choses sont construites par des discours. Et en fait, il y a un cas qui m'a vraiment fait comprendre ce que c'était. C'est un livre ou un article, je sais plus. En tout cas, ça parlait du problème de l'alcool au volant. Et en fait, à quel point pendant des années, les gens pouvaient conduire et être sous et ça posait de problème à personne. Et d'un coup, en fait, on s'est rendu compte que ça avait des coûts pour l'État et que du coup, il était important de poser ça comme un problème. Je ne saurais pas dire si ça a eu une influence directement sur ma vie quotidienne. Je me dis que ça a juste changé ma manière dont je voyais en fait les choses et les discours, et du coup de ce que ça pouvait avoir comme incidence sur la vie de tout le monde, et du coup la mienne aussi. C'est quelque chose qui, moi, m'a permis de voir et d'entendre les choses différemment, et de comprendre que derrière toute manière d'envisager un problème, ou de poser quelque chose qui peut être un problème, il y a des intérêts, il y a différents discours qui se côtoient, et il y en a un qui va gagner, et qui, du coup, va être le discours dominant sur une chose, quoi. Par exemple, aujourd'hui, j'écoutais une émission de radio sur France Inter, et ça parlait de Bertrand Cantat. Et en fait, la manière dont ça parlait de Bertrand Cantat et du coup du meurtre de Marie Trintignant, c'était d'expliquer ça comme une histoire d'amour passionnel dans laquelle lui a perdu sa vie et elle aussi au final, mais qu'il n'y avait pas quelque chose qui était plus grave l'un que l'autre et que dans cette histoire, tous les deux ont eu une passion déchirante qui a fait qu'elle est morte, quoi. Voilà. Et je me dis que ça, c'est une manière dont on peut imaginer que le crime passionnel continue à exister, alors qu'au final, c'est juste une des conséquences du patriarcat qui fait que y a des hommes qui tuent des femmes et que ça arrive au quotidien et qu'on se révolte pas tellement, même quand c'est quelqu'un qui est très connu. Je pense que ça a vraiment impacté ma manière de voir le monde. Quand j'ai compris ce que ça voulait dire, que de réfléchir aux choses comme ça, je me suis dit que je verrais plus jamais les choses pareilles, quoi. Ça permet de pas prendre les discours dominants au pied de la lettre, quoi. Ça déconstruit ta réalité et que ça te permet de t'en bricoler une parce qu'il est existant de manière dominante dans les journaux, dans la radio. C'est pas les discours, les vérités, ce qu'on veut, minoritaires, qui ont le plus d'influence. Moi, je trouve que les mots qui viennent te toucher profondément, c'est pas forcément des mots qui sont des concepts qui te permettent de comprendre politiquement ou socialement le monde, mais des mots, en fait, qui n'ont pas ce contenu-là. Et que si moi, je me sens bouleversée par un mot, ce sera pas forcément de la théorie, je pense. Je pensais à écume, tu vois. C'est génial, écume, par exemple, comme mot. Mais ça ne change rien à la vie. Juste ce mot et ce que c'est, l'écume, c'est hyper chouette. C'est une petite mousse produite par la mer qui vole dans le vent. Voilà. C'est quand même hyper chouette. Mais ça me fait pas du tout le même effet que le constructivisme. L'écume, ça crée beaucoup de plaisir, ouais. Constructivisme, un peu moins. Un peu moins de plaisir immédiat, facile, léger, quoi. Non, ouais, dans ma tête, c'est deux trucs vraiment différents. Et quand tu te prends l'écume en pleine face. Ou l'écume qu'il y a sur la plage et dans laquelle tu vas mettre tes orteils. Tu vois, ça chatouille un peu. Mais c'est doux aussi. My body's calling you. My body's calling you. My body's...
Vous écoutez toujours Micro-ondes sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Un petit mot pour vous dire qu'on a eu des retours comme quoi la qualité du son était pas top, ça saturait beaucoup. Eh ben désolé, on sait pas trop d'où ça vient. Petit problème technique. En tout cas, n'ayez pas peur, vous pouvez toujours retrouver nos émissions, toutes les émissions, y compris celle-ci, sur le site internet du Tami, le-tami.info/structure/micro-onde au pluriel. Voilà. Et du coup,
le son sera bon en podcast.
Oui, le son sera bon en podcast. Ok. Voilà, ce sera meilleur. Et du coup, maintenant, on va passer aux brèves. On commence avec une brève sur les prisons.
Alors, plus précisément, une brève sur la réforme pénale. C'est un tout petit point focal sur cette réforme.
Alors, une petite brève sur la refondation pénale de Macron. Nous avons pu entendre parler depuis mars dernier d'une fameuse réforme de la justice, lancée en réalité depuis octobre 2017 sous forme de 5 grands chantiers justice. Ce sont les conclusions prises par le gouvernement qui ont été rendues publiques en mars dernier. À cette occasion, on a vu des magistrats, des avocats descendre dans la rue pour dénoncer d'abord l'absence de concertation, ensuite que les mesures vont s'imposer par décret, et puis aussi dénoncer plus de dématérialisation de la justice, moins de protection des justiciables et de leurs données, plus d'intrusion du secteur privé dans la justice qui se verra attribuer des missions et par là même la possibilité d'offrir des services payants et donc de faire des bénéfices. L'un de ces 5 chantiers est appelé refondation pénale et c'est sur ce chantier qu'on va s'attarder aujourd'hui. On a pu lire à ce sujet que Macron voulait baisser la population carcérale ou faire face à la surpopulation carcérale, augmenter les peines alternatives, bracelets électroniques, travaux d'intérêt généraux, milieu ouvert avec contrôle, sursis, etc. De loin, mais alors vraiment de loin, même si bon nombre de journaux s'en sont fait le relais dans ce sens, on pourrait croire à une justice plus humaniste et plus progressiste. Mais la vigilance et la critique s'imposent. Retenons d'abord cette question des 7000 places de prison supplémentaires pour désengorger les prisons. Didier Fassin le rappelle dans son ouvrage sur les prisons. Voilà 15 ans que l'on construit en masse des prisons en France. Et jamais le problème de surpopulation a été résolu. Les prisons sont construites et gérées de plus en plus par Vinci Construction, par exemple, en partenariat public-privé. Donc en gros, plus de places de prison, c'est égal plus de prisonniers et plus d'argent pour Vinci. Voilà, c'est tout. Retenons aussi que Macron se targue que toutes les peines de moins d'un an soient obligatoirement aménageables. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que bon nombre de peines de moins d'un an sont déjà aménagées, donc ça n'a pas changé grand-chose. En plus, la loi Taubira rendait possible l'aménagement pour toutes les peines de moins de 2 ans. Donc en gros, finalement, les peines de plus d'un an ne seront plus du tout aménageables. Et si on regarde ces fameuses peines alternatives, le bracelet électronique, les travaux d'intérêt généraux, les contrôles, les suivis, ils ne nous disent rien sur le type de délit condamné, alors que ces derniers sont de plus en plus importants. On est condamné aujourd'hui pour des choses pour lesquelles on n'était pas condamné il y a 10 ans. Donc, toujours plus de délits condamnés, plus, toujours plus de peines alternatives. Ça ne veut pas dire une justice plus juste, plus humaniste ou plus égalitaire, non. Cela veut dire toujours plus de population sous contrôle. Et si on regarde encore de plus près l'une de ces fameuses peines alternatives, une que plein de gens connaissent, les TIG, travaux d'intérêt généraux, elle était jusqu'ici exécutée gratuitement dans des associations, des collectivités, des services publics. Macron, ce qu'il veut aujourd'hui, lui, c'est les étendre aux entreprises privées. Difficile de ne pas songer à l'intérêt que pourra susciter cette vanne de travail gratuit. Dans cette réforme de la justice, il n'est rien dit sur la pauvreté, le chômage, les exclusions, les inégalités fabriquées à la chaîne par un système qui refuse d'en assumer les responsabilités. Il n'est rien dit sur les contrôles quotidiens concentrés sur des quartiers, ciblés sur des populations. En 15 mois d'enquête dans un commissariat de police à Paris, Didier Fassin explique qu'il s'est rendu tous les jours dans un quartier populaire dit difficile. Tous les jours, les policiers y ont fouillé des personnes, des voitures, des appartements. Tous les jours, donc, ils y ont trouvé du shit. Mais en 15 mois, ils n'ont pas une seule fois effectué un contrôle devant une fac, une école de commerce ou un lycée. Il n'est rien dit non plus dans cette réforme sur ce qu'appelle Didier Fassin la passion contemporaine de punition. Pourquoi on punit aujourd'hui? Est-ce qu'on a toujours puni? De manière prémonitoire, Foucault avait déclaré « On nous dit que les prisons sont surpeuplées, mais si c'était la population qui était suremprisonnée ?» En somme, comme on pouvait le lire dans Libération du 12 mars 2018, Ce qui est présenté comme une refonte progressiste et humaniste, à la fois sous forme de peine alternative ou sous forme de peine d'isolation, permet le maintien, l'élargissement et la transformation d'un pouvoir répressif pour écarter et contrôler certaines catégories sociales bien précises. Qu'on se le dise.
Vas-y, c'est bon. Vous êtes toujours, vous écoutez toujours. On continue avec les brèves, avec des nouvelles de la famille Traoré et de Notre-Dame-des-Landes.
C'est ça, et on commence du coup avec Notre-Dame-des-Landes. Du coup, pour mémoire, l'expulsion de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes a commencé le 9 avril, alors même que le projet d'aéroport avait été complètement abandonné et que justement les habitants en cours proposaient vraiment un projet sur zone alternative qui avait un certain sens. Mais malgré tout, le gouvernement s'est entêté à nettoyer, comme ils disent entre guillemets, la zone de l'ensemble de ses occupants. Ce qui veut dire 2500 gendarmes mobiles qui ont été déployés avec 4 véhicules blindés, des drones, un hélicoptère, etc. Et tout ça pour un coût environ estimé à près de 1 million d'euros par jour, simplement du coup pour nettoyer la zone d'habitants qui de toute façon comptent y vivre et y installer des projets alternatifs. Un petit bilan du coup, donc pendant 17 jours, les gendarmes ont occupé la zone de 6h à 21h et faisant de nombreux blessés. On estime aujourd'hui à plus de 305 personnes qui ont été blessées par les armes de la police, que ce soit des brûlures faites par des grenades ou des grenades lacrymogènes, des plaies causées par des flashballs ou des grenades de désencerclement, de nombreux traumatismes auditifs causés par les grenades assourdissantes, d'importantes intoxications au gaz et notamment avec des gaz incapacitants qui causent des troubles psychiques forts, d'importants vomissements, etc. et des grosses difficultés à se maintenir en équilibre. On remarque aussi que par rapport à du coup, ces nombreux blessés, donc, qui sont en général pris en charge par des médics sur place, des équipes de médics, certaines ne peuvent pas être prises en charge parce que les blessures sont trop graves et nécessitent par exemple des opérations chirurgicales, etc. Quand ça nécessitait des évacuations vers les hôpitaux, notamment de la région, soit les gendarmes emmenaient eux-mêmes les blessés et les jetaient par exemple en plein centre-ville. Ça a été le cas d'une personne qui a quand même eu une vingtaine de points de suture à la main après s'être fait arracher la main sur un toit d'une cabane où il était. Et il y a aussi beaucoup d'ambulances qui cherchaient à évacuer des blessés qui ont été bloquées par les gendarmes pendant de nombreuses heures, alors même qu'elles essayaient d'évacuer les blessés. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, sur la zone et partout ailleurs en France, la police continue de blesser très gravement des personnes. Et notamment, on ne s'étonne pas du coup derrière qu'il puisse y avoir des morts. Voilà, et on en parlera avec l'affaire Traoré. Depuis le 25 avril, la ZAD est théoriquement en période de trêve et ça devrait durer jusqu'au 14 mai, soi-disant pour permettre l'examen des dossiers. Mais en cette période soi-disant de trêve, les gendarmes sont toujours présents et les blessés continuent. On recense encore de nombreuses blessures causées par les armes de la police. Et on remarque aussi que du coup, donc cette période qui dure depuis le 25 avril et qui va durer jusqu'au 14 mai est en fait un moyen, là encore, d'instrumentaliser la lutte et surtout de diviser la ZAD en ne valorisant que certains projets, les projets agricoles, en oubliant tous les projets artisanaux, etc. Et en faisant toujours la différence entre les bons et les mauvais zadistes, en ayant démoli certaines cabanes, etc. Et si il leur est arrivé de détruire des projets comme Les Sans Noms, qui était une ferme assez emblématique, aujourd'hui c'est bien des projets, d'autres projets justement. Il y a une vraie volonté de diviser et de ne garder que les projets agricoles et d'enlever tout ce qui est un tant soit peu alternatif sur la zone. Voilà, c'était juste du coup pour faire un peu un état des lieux de la situation sur place qui continue comme en temps de guerre, entre guillemets. Et je laisse la parole du coup pour une deuxième brève sur la famille Traoré.
Je sais pas, on a le temps pour la troisième brève ? Ok, super. Et bah, pendant ce temps-là, à Beaumont-sur-Oise, pour rappeler un petit peu les faits qui datent maintenant d'il y a presque 2 ans, le 19 juillet 2016, Adama Traoré est mort, donc asphyxié lors de son interpellation par la police de Beaumont-sur-Oise. après avoir subi un plaquage ventral écrasé par trois gendarmes et pour n'avoir ensuite reçu aucune assistance médicale. À ce jour, les militaires n'ont toujours pas été mis en examen pour ces faits. Au contraire, il y a même six de leurs collègues qui ont été décorés début novembre 2017, soi-disant pour leur attitude le soir de la mort d'Adama. Et par contre, depuis cette date, la famille n'a non seulement pas obtenu justice et vérité pour la mort d'Adama, mais en plus, elle subit un acharnement sans fin. Depuis la mort d'Adama, quatre de ses frères ont été condamnés à plusieurs mois de prison, avec sursis ou ferme, ainsi que des proches du collectif Vérité et Justice pour Adama, pour outrage ou pour de prétendus actes de violence contre les forces de l'ordre. La famille a subi au moins sept procédures judiciaires depuis la mort d'Adama Traoré et de fortes amendes. Toutes ces procédures participent à une criminalisation du combat de la famille Traoré, les frères Traoré se retrouvant en prison pour avoir réclamé la justice et avoir voulu défendre leurs droits et leurs idées. Au-delà de cette criminalisation, ce combat contre les violences policières et sa répression traduisent un racisme d'État qui s'acharne particulièrement dans les quartiers populaires. Déjà en novembre 2016, alors que la maire de la ville de Beaumont-sur-Oise, Nathalie Groux, réunissait un conseil municipal pour soumettre au vote l'adoption d'un financement destiné à couvrir les frais de la procédure judiciaire qu'elle comptait lancer contre la sœur d'Adama, donc Assa Traoré, pour diffamation, la gendarmerie a violemment réprimé les soutiens réunis autour du conseil municipal, puis a mené une expédition punitive à Boyenneval, qui est donc le quartier où vit la famille Traoré, en chargeant les habitantes qui étaient restées en bas des immeubles pour discuter. Donc ça, c'était pour les événements précédents. Et pour le dernier événement en date, donc celui de samedi dernier, le 28 avril, le comité de soutien avait organisé une journée familiale et festive avec barbecue et musique, donc dans le quartier de Boyenneval, donc autour de la boxe, en présence d'Aya Sissoko, qui est donc championne de boxe, pour les habitants de Beaumont-sur-Oise. Cette réunion, pourtant très paisible, semble avoir été suffisante pour susciter la présence de l'armée, venue en renfort de la gendarmerie. Ainsi, les enfants du quartier ont pu voir débarquer 30 minutes après le début de l'événement deux jeeps militaires de l'opération Sentinelle Vigipirate et un kangou de la gendarmerie. Sept militaires en tenue et tous armés en sont descendus pour aller sur le terrain. Une intimidation de plus pour les habitants du quartier. Pendant tout l'événement, sept véhicules des forces de l'ordre sont passés au pas au bord du terrain de foot où se déroulait l'événement. Ces interventions militaires rappellent simplement l'état de guerre instauré par l'État au sein des quartiers, avec une banalisation de la présence des forces de l'ordre en armes de guerre. Le but est de contrôler une population des quartiers populaires, présentée comme dangereuse, dès l'instant qu'elle s'organise de manière autonome, comme le rappelle Youssef Brakni, membre du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Contrôle aux faciès, violences policières et crimes racistes impunis, acharnement judiciaire, recours à l'inculpation pour outrage, présence de l'armée dans les quartiers populaires, le combat de la famille Traoré et sa criminalisation montrent encore une fois la gestion coloniale des quartiers populaires et la guerre par un État raciste à leurs habitants.
Merci. On poursuit avec l'agenda. Un premier événement qui s'appelle l'autre mai 1945 en Algérie. Ça se passera le mardi 8 mai de 18h à 19h30. Rassemblement, cérémonie en mémoire des milliers d'Algériens massacrés alors qu'ils et elles manifestaient le 8 mai 45 à Sétif, Guelma et Karata. Prise de parole, dépôt de gerbes, apposition d'une plaque et pot. À l'appel du collectif 17 octobre 61 à Fontaine, devant l'hôtel de ville 89 mai Marcel Cachin. Deuxième événement, le 10 mai, ce sera la commémoration de l'abolition de l'esclavage et des traites négrières. Jeudi 10 mai, de 10h à 13h. Alors à 10h, venez marcher au rythme des tambours. Alors là, désolé pour la prononciation parce que je ne suis pas tout à fait sûre de tout ce que je vais dire. Enfin, la prononciation. Voilà. Donc, 10h, venez marcher au rythme des tambours, Gwoka et des calbasses avec le groupe Kaladja, originaire de Guadeloupe, Martinique, et Sigil, Mali, Sénégal. Départ de Félix Poula, 11h, parvis des droits de l'homme, jardin de ville, anamnèse, en tandem, danse et lecture des textes suivis des discours du maire et du préfet et de Juanita Perronet, vice-présidente du CTNE. Hommage musical avec la Batoukavi et Abda Capoeira. Puis buffet et buvette. C'est organisé par le CTNE et soutenu par Afrique Impact, CADTM Grenoble, CIIP et Survie 38. Encore le 12 mai, un autre événement qui s'appelle Palestine, marche et commémoration de la Nakba. Ce sera le samedi 12 mai de 14h à 17h30. Cette année, c'est par rapport au fait que cette année, c'est une année particulière, notamment parce que cet événement s'inscrit dans le cadre de la grande marche du retour qu'ont entrepris les réfugiés palestiniens depuis le 30 mars 2018 et qui a fait de nombreux morts et beaucoup de blessés. 14h30, départ de la place du marché de la Villeneuve pour arriver place Notre-Dame en passant par la MC2 et Victor Hugo. C'est organisé par l'association Les Amis d'Aïna Halway et BDS Grenoble et le FIQP. Encore un événement le 12 mai, ça s'appelle du rap en soutien au CHUM. C'est samedi 12 mai du coup à 20h. Et le CHUM, c'est un centre d'hébergement d'urgence pour mineurs isolés du côté de Vennes. Alors, le CHUM, c'est un lieu d'accueil et de solidarité autogéré ouvert depuis le 6 septembre 2017 en soutien à une vingtaine de mineurs entre 15 et 17 ans venus de différents pays africains. Ils y trouvent un toit à manger, des aides pour leur démarche et des soins. Ils se trouvent à Vennes, donc. Et du coup, l'événement, ce sera un concert de rap pour soutenir ce lieu avec double impact, salaire noir, dialectique, musique, des vinyles des intrinsèques, et ensuite il y aura un open mic et une boom. C'est une soirée après libre qui se déroulera au 38 rue d'Alembert, qui est un centre social autogéré dans le quartier de Saint-Bruno. Voilà, j'ai fini avec l'agenda. Vous avez des choses à rajouter en termes d'agenda? Non?
Il y aura plusieurs dates de mobilisation. Il y a celle des cheminots que Seb a dit tout à l'heure, la montée à Paris lundi, demain. Là, j'ai ouverte à la gare de Grenoble le 9 mai, du coup, à 10h. Il y aura une mobilisation dans la santé le 15 mai et puis il y aura une grande journée de la fonction publique le 22 mai. Et enfin, un peu pour donner la dernière date qu'on est pour l'instant, mais ça ne sera pas une fin. Le samedi 26 mai, une grande journée unitaire, politique, syndicale et association, donc dans la perspective de la construction de ce grand mouvement social dont nous avons toutes et tous besoin.
Ok. Et ouais.
Ça se met dans l'éducation aussi.
Ouais.
De la maternelle à l'université, tous dans la rue. Hein.
D'accord. Dans la rue. On va retrouver ces événements-là dans l'agenda de la prochaine émission, de l'émission du 13 mai. Donc voilà, et du coup, pour vous dire aussi, pour plus d'informations, vous pouvez aller consulter les sites internet tels que IndieMédia Grenoble ou cric-grenoble.info ou encore le Tami, donc le-tami.info. Et vous pouvez aussi trouver des informations sur certains de ces événements sur des sites tels que celui du Centre d'information interpeuple, le CIP.fr, rubrique agenda. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de panique, retrouvez. On vous le redit, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le Tami, letami.info/structure/micro-onde. Voilà.
En plus audible.
En plus audible.
Ah oui, il n'y aura pas les cruc-cruc que vous avez eu pendant 2 heures. Au revoir tout le monde.
Au revoir. Et merci beaucoup.
Salut. Merci.
Merci beaucoup.